Radio Spirale. Aujourd'hui, une table ronde autour du livre de Bernard Girard, Aristote, leçons pour redonner du sens à l'entreprise et au travail. L'auteur était de passage à Montréal à l'hiver 2011 pour y présenter son livre. L'événement avait lieu à la librairie Olivieri.
Bonsoir, messieurs, dames. Ça vous va si on commence?
Bon. Je m'appelle Thierry Pochon. Voici... Bernard Girard, voici Michel Seguin. Bienvenue, Bernard. Vous avez plus de décalage ou vous l'avez encore?
Non.
Vous êtes arrivé il y a quand de France?
Hier.
Et vous faites votre décalage en moins 24 heures. Vous allez nous
donner
votre
secret. Oui, je ne sais pas. Il est encore un peu tôt, là. Peut-être que tout à l'heure, ça fera différence. Ouais,
alors, ça fait bien plaisir de vous accueillir à la Saint-Valentin, à Montréal, où il va faire moins 20 ce soir. Vous allez comprendre la différence entre fret et froid. Ça va faire fret, pas froid. Vous allez voir, c'est quelque chose. Alors, voilà comment on va procéder. Je vais être animateur. Bernard va parler 20 minutes, présenter un petit peu ce merveilleux bouquin qu'il a signé. Et puis, Michel ensuite, Michel Seguin, professeur philosophie et gestion à UQAM, va intervenir 10 minutes environ sur qu'est-ce qui semble important. Je vais intervenir 10 minutes. Et puis ensuite, nous aurons un échange. Vous, nous, tout le monde, à voir comment ça nous porte. On finira vers 8h30. Alors voilà, sans plus tarder, Bernard Girard, pourquoi vous avez écrit ce livre et qu'est-ce qu'il y a dedans?
Voilà, bon, écoutez, bonsoir d'abord, merci de m'accueillir, et puis merci de m'accueillir pour vous parler d'un livre, d'un projet qui peut sembler un petit peu incongru, associé à Aristote, philosophe de l'Antiquité grecque, et les questions de management d'aujourd'hui, cela peut paraître étrange et bizarre. Ça l'est effectivement, et cela demande bien sûr quelques explications. Alors, le projet de ce livre est né en 2008-2009, en plein milieu de la crise économique. Comme beaucoup, naturellement, j'essayais un petit peu de comprendre ce qui se passait. Étant amené, du fait de mes activités, à faire beaucoup d'économies, je lisais beaucoup les économistes et j'y trouvais beaucoup d'explications qui me paraissaient souvent convaincantes, intéressantes, mais qui me paraissaient souvent, cependant, manquer ou négliger une dimension qui paraissait quand même à nous tous, à l'opinion présente en permanence, c'était celle de ces scandales multiples qui sont répétés depuis le début des années 2000, qui continuent d'ailleurs, il y en a encore, il y a 2-3 jours, on annonçait à Seattle qu'on découvrait que de grandes banques américaines avaient utilisé des fonds destinés à aider les quartiers en difficulté pour construire des hôtels de grand luxe, donc... C'est un scandale il y a 2 jours. Donc on est en permanence entouré de ces scandales. Il me semblait que dans leurs explications, les économistes avaient tendance un petit peu à négliger cette dimension qui témoignait à l'évidence d'une crise morale. Alors cette crise morale n'est certainement pas à l'origine de la crise économique, comme a pu le dire par exemple Alan Greenspan. Vous savez, il était le patron de la Fed, de la Banque fédérale américaine, qui en 2002, après la première bulle Internet, l'explosion de la première bulle Internet, a dit mais c'est le problème de ces agents économiques qui sont très cupides, c'est une contagion de la cupidité, a-t-il utilisé. Non, on ne peut pas dire que ce soit la cupidité, que ce soit les dérives morales qui soient à l'origine de cette crise. Elle a bien sûr bien d'autres dimensions, mais tant de gens ont triché, tant de gens ont pris en toute bonne conscience des décisions qui nous paraissent aujourd'hui scandaleuses, qu'il me paraissait difficile de négliger cette dimension, d'autant qu'on la retrouve chaque fois que le capitalisme connaît une crise grave. Et vous savez que l'une des vertus du capitalisme, c'est justement de vivre de ces crises, de sortir en permanence de ces crises. C'est une institution ou c'est un système, un régime qui vit de crise en crise. Et ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque le capitalisme connaît une de ces grandes crises, chaque fois qu'on en sort, il y a des réflexions qui lient capitalisme et morale. Le premier des textes de ce type, c'est naturellement le texte de Max Weber sur l'éthique protestante, le capitalisme et l'éthique protestante, écrit en 1904. publié en 1904, écrit donc au lendemain de la première grande crise internationale du capitalisme, 1896. Un peu plus tard, en 1929-1930, Galbraith, économiste très connu, écrit un texte dans lequel il dit « La crise est liée au fait que les banquiers ont prêté massivement aux spéculateurs et ils l'ont fait pour des motifs qui relevaient d'une dimension morale qui n'était pas tout à fait satisfaisante. » Alors, la crise que nous venons de traverser ne fait pas exception, à ceci près que les acteurs qui ont été mis en cause dans cette crise ne sont pas ceux qui avaient été mis en cause dans les crises précédentes. Au fin du XIXe siècle, on s'en prend aux grands patrons, aux grands aventuriers de l'industrie, aux grands capitaines de l'industrie, ce qu'on appelait les barons voleurs. En 1929, on s'en prend aux banquiers et aux spéculateurs. Cette fois-ci, on s'en est pris aux banquiers, peu aux spéculateurs, pas du tout aux capitaines d'industrie. Souvenez-vous, on n'a pas une seconde reproché quoi que ce soit à Bill Gates, à Steve Jobs, à Larry Page ou Sergey Brin. On s'en est pris beaucoup plus aux dirigeants des entreprises, c'est-à-dire aux managers, ou je crois qu'ici vous dites plutôt gestionnaire plutôt que manager, mais à ces gens donc qui sont plutôt des salariés, qui sont des cadres dirigeants des grandes entreprises. Ce qui m'a fait penser qu'il y avait probablement cette fois-ci derrière ou accompagnant cette crise financière, économique, une crise du management. Et une fois ce constat fait, restait bien sûr à comprendre ce qui s'est passé, et parmi tous les outils dont nous disposons, il y a bien sûr la philosophie morale. Étant de formation philosophe, je me suis dit, je vais aller regarder du côté des philosophes, du côté de la philosophie morale, si on peut trouver des outils qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. Et vous savez que dans le domaine de la philosophie morale, il y a deux grandes traditions. Il y a la tradition déontologique, disons pour simplifier, la tradition kantienne, pour laquelle une action est jugée, disons, bonne, dès lors qu'elle est conforme à une norme. Et on va évaluer la qualité d'une décision ou d'une action en fonction de sa conformité à la norme. C'est la tradition donc déontologique ou kantienne. Et puis, il y a une autre tradition que l'on appelle conséquentialiste, qui est plutôt d'origine anglo-saxonne, que l'on trouve chez des gens comme John Stuart Mill, Jeremy Bentham et toute la tradition utilitariste, qui nous explique que la qualité d'une action se mesure à ses conséquences. Une action qui a de bonnes conséquences est une action juste, une action bonne. Une action qui a de mauvaises conséquences est une action mauvaise. Alors, l'inconvénient, c'est qu'aucune de ces deux traditions ne nous permettait de comprendre ce qui s'est passé. La tradition déontologique ne nous le permettait pas, puisque elle nous dit qu'effectivement, il y a des gens qui ont passé la ligne jaune, qui ont passé la ligne blanche, qui n'ont pas respecté la norme. Mais ça, on le sait. Ça ne nous aide pas beaucoup à comprendre pourquoi ils ont triché, volé, se sont comportés de cette manière-là. Et puis, la tradition conséquentialiste, butée sur ces contradictions internes, pensait tout simplement à tous ces banquiers qui ont prêté de l'argent à des gens pauvres pour s'acheter leur maison. Cela pouvait paraître une bonne action tant que tout se passait bien, et du jour où ces mêmes emprunts ou ces mêmes prêts ont conduit ces gens à la faillite personnelle totale, ce qui était une bonne action devient une mauvaise action. Donc, ces deux grandes traditions de la philosophie morale ne nous aidaient pas beaucoup. Ce qui m'a amené à me tourner vers une troisième tradition qui a longtemps été dominante, puis qui est tombée un petit peu dans l'oubli pour ressortir un petit peu de l'oubli ces 20 dernières années, je veux dire la tradition de ce qu'on appelle l'éthique des vertus, l'éthique aristotélicienne. Alors, c'est une tradition, quand j'ai fait mes études de philosophie à la fin des années 60, j'ai étudié Platon, j'ai étudié Kant, Hegel, Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, et puis des auteurs plus récents, Husserl, Heidegger. Aristote, nous passions à côté, bizarrement. Et aujourd'hui, on trouve un retour d'Aristote dans des tas de domaines. Et donc, si vous voulez, c'est cette incapacité des deux grandes traditions de philosophie morale à comprendre cette crise qui m'a amené à aller vers Aristote, à le lire, à le relire encore, parce que c'est un auteur à l'inverse d'autres, comme Platon ou Nietzsche, qui sont de grands écrivains, ou Descartes, grands écrivains faciles à lire, Aristote, c'est un peu comme Kant. C'est-à-dire qu'il faut lire, le relire, se gratter la tête, recommencer. C'est un peu, c'est mal écrit. En plus, c'est souvent très très mal traduit. Donc tout cela fait que bon, il faut travailler, mais vraiment, ça vaut la peine parce que c'est rempli d'idées, de concepts qui permettent de comprendre, paradoxalement, notre modernité. Et qui permettent d'autant mieux de la comprendre qu'Aristote a traité d'un très grand nombre de sujets, qu'il a traité de beaucoup de sujets qui nous intéressent, notamment qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que c'est que commander, comment vivre ensemble, comment construire une bonne société, et comment même, et il y a dans le livre un chapitre là-dessus, comment même concevoir une société mondiale, parce que la Grèce antique était probablement la première expérience de mondialisation. C'est une chose que j'ai découverte, j'avais dû l'apprendre, on avait dû me le dire au lycée, mais je l'avais oublié. C'était pas un empire, mais le monde grec allait de l'Europe occidentale jusque l'Afghanistan et l'Inde. Il y avait la Grèce antique, c'est a envahi absolument tout ce monde-là et a été un espace, ça a été d'une certaine manière la première mondialisation, et Aristote est le premier à avoir pensé cette mondialisation de manière, je crois que nous n'allons pas développer ça là, mais de manière extrêmement originale. Et au-delà de tout cela, il y a dans les textes d'Aristote, notamment dans ses textes éthiques, vous savez qu'il a écrit deux morales, l'éthique à Nicomaque notamment, qui est la plus célèbre, et puis l'éthique à Eudème, il a donc écrit deux textes consacré à la morale, de textes dont on ne sait pas très bien lequel est le premier. Certains disent que l'éthique à Nicomaque est le texte princeps et que l'éthique à Eudème a été écrite ensuite, et d'autres disent le contraire, bataille de spécialistes qui en l'espèce ne nous concernent pas, mais c'est pour vous dire combien ces textes nous sont quand même peu connus. Beaucoup de ces textes d'ailleurs n'ont pas été écrits directement par Aristote, sont des notes de cours prises par ses étudiants, ce qui contribue à expliquer que ce soit souvent assez compliqué. Et dans ces textes de morale, Aristote nous donne des éléments pour, je crois, comprendre la crise. Et notamment, il classe nos comportements en quatre grandes catégories. Il dit, lorsque nous faisons une action, nous avons le choix entre ce qu'il appelle l'intempérance, l'incontinence, et puis le symétrique, la continence et la tempérance. L'intempérance, c'est lorsque l'on fait quelque chose de mal ou de pas correct sans s'en rendre compte naturellement. On n'a pas le sentiment de faire quelque chose de mal. L'incontinence, c'est lorsque l'on fait quelque chose de mal ou d'injuste en ayant conscience que l'on fait quelque chose de mal ou d'injuste. On sait que je sais que je ne dois pas prendre dans votre poche, cependant je le fais, mais je sais que je ne dois pas le faire. La continence, c'est le contraire. La continence, c'est je fais ce qui est bien, mais quand même, je me retiens de ne pas mettre ma main dans votre poche. Là, véritablement, je le fais contre mon gré. Et puis la tempérance, c'est, vous l'avez bien deviné, c'est lorsque l'on fait spontanément, naturellement, ce qu'il convient de faire. Et ce modèle, cette structure, ces quatre types de comportements, nous aident, je crois, à comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes passés d'un monde dans lequel les dirigeants, les décideurs, hésiter entre continence et incontinence, à un monde dans lequel ils ont massivement basculé dans l'intempérance. À ce point qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ici il n'y a naturellement jamais d'affaires de corruption, ici. Non. Chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, il y en a de temps en temps. Et lorsqu'il y en a, ce qui frappe, c'est que ceux qui sont pris la main dans le sac, la première réaction, c'est d'incompréhension. Comment se fait-il qu'on me reproche ce que j'ai fait, qui me paraissait tout à fait naturel, normal? C'était naturel, je l'ai fait de bonne foi. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont passé la ligne jaune. Ils ont donc, si vous voulez, passé du côté de ce qu'Aristote appelait l'intempérance. Donc, il y a là, déjà chez Aristote, un premier modèle qui nous aide à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Enfin, bon, ça c'est une chose, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que derrière, Aristote nous dit, nous explique pourquoi on peut être intempérant, incontinent, continent ou tempérant. Et là, il nous dit qu'il y a deux moteurs à cela. Le premier, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Et le second, c'est ce qu'il appelle l'habitus. Alors, ceux d'entre vous qui sont un peu sociologues reconnaissent ce mot que Bourdieu a beaucoup utilisé, qu'il a directement emprunté, naturellement, à Aristote et par habitus, disons pour simplifier, l'ensemble des habitudes, des choses que l'on fait de manière naturelle par force d'habitude. Et quand on réfléchit, qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on trouve effectivement, dans les motifs qui ont conduit à cette crise, à la fois une responsabilité du côté de l'enseignement, et j'en suis désolé pour mes collègues qui forment des jeunes gens de ce type-là, et du côté des habitudes. Du côté de l'enseignement, moi je pense, je veux dire, c'est pas la peine de développer longuement, mais je pense simplement à un formidable livre qu'a écrit un de nos collègues, Nils Bern, travaille ici à McGill, sur une critique très très violente des formations du MBA, dans lequel il disait en gros, ça fabrique des escrocs. Bien. Bon, il faisait, en le sachant ou sans le savoir, que reprendre, développer et donner de la chair à la thèse d'Aristote sur l'enseignement. Et l'un des premiers mécanismes qui explique probablement cette crise et ce qui s'est passé, c'est ces enseignements qui ont fabriqué des générations, des palanquées de dirigeants dont les valeurs allaient à l'encontre des valeurs de la société en général. Et puis, le deuxième élément, ce sont bien sûr ces habitudes qui se sont développées au fil de l'eau, au fil des années. Et pour vous donner des illustrations, je prendrai deux exemples. Le premier tourne autour de la manière dont, aux États-Unis notamment, et si je cite les États-Unis, c'est parce que c'est bien sûr le cœur de cette crise, les comptables ont conçu leur travail. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les rule-based accounting, comptabilité basée sur les règles, c'est-à-dire qu'au fond, on se préoccupe de la lettre des textes et non pas de leur esprit, alors que dans d'autres cultures, on s'intéresse plutôt aux principes, à l'esprit des textes plutôt qu'à leurs lettres. Bon, il y a actuellement d'ailleurs aux États-Unis des discussions pour savoir s'il ne faudrait pas passer d'une comptabilité qui insiste exclusivement sur la lettre des textes plutôt qu'à une aller plutôt vers une comptabilité qui insiste vers les principes. Mais on sent bien qu'une comptabilité qui insiste uniquement, qui se préoccupe uniquement de la lettre des textes, va naturellement inciter des juristes à essayer de contourner les textes, à essayer d'aller comment faire pour échapper à la lettre des textes. Et c'est là que les avocats se révèlent, pardon pour ceux d'entre vous qui êtes avocats, se révèlent admirables. Et puis, je vais vous donner un autre exemple qui touche aux rémunérations. Alors, on a beaucoup écrit, bien sûr, sur les rémunérations, sur les bonus, et je ne vais pas y revenir. Sinon, pour souligner que toutes ces méthodes de rémunération s'appuient le modèle de l'agent rationnel tout entier attaché à son intérêt personnel, tout entier occupé à la poursuite de son intérêt personnel, en gros disons égoïste, et c'est ce modèle qui est nourri aujourd'hui tout à la fois l'enseignement de la gestion un peu partout dans le monde, mais qui nourrit également les pratiques réelles des entreprises. Et c'est ce modèle contre lequel, justement, Aristote nous met en garde en nous disant « Attention, nous ne sommes pas d'abord des animaux égoïstes. Nous sommes, nous dit-il, des animaux politiques. » Et c'est là un concept capital, une formule connue, hein, « L'homme est un animal politique » chez Aristote, mais c'est un concept capital chez Aristote, qui le met d'ailleurs à l'opposé complet de quelqu'un comme Rousseau, pour lequel l'homme était libre et indépendant, et c'était la société qu'il détruisait. L'homme, dans l'état de nature, était infiniment plus joyeux, plus libre que dans l'état de société. Aristote, c'est exactement le contraire. Et cette idée capitale, je vois qu'il ne me reste que 5 minutes, donc je vais aller très vite, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans la conversation. Mais la prendre au sérieux cette idée que nous sommes des animaux politiques et non pas simplement des égoïstes, nous amène à prendre en compte toute une série de problèmes que la théorie économique canonique, classique, laisse de côté. Qu'est-ce qui fait une communauté? Qu'est-ce qui fait, pour ce qui nous intéresse, un groupe de travail? D'où vient la confiance? Quel est le rôle de la justice? Qu'est-ce qui unit ensemble individus, citoyens, collègues? Pourquoi certains obéissent-ils? Comment commander? Toutes ces questions tournent autour du lien social dont Aristote fait le cœur de la société. Nous sommes, nous dit-il, l'individu aristotélicien est quelqu'un qui en permanence doit arbitrer entre son intérêt personnel, je dois prendre dans la poche de Michel, et la qualité de la relation que je souhaite entretenir avec Michel. Il est bien clair que si je prends dans sa poche, notre relation ne sera plus tout à fait amicale. Et comme je souhaite avoir une relation amicale, ça introduit dans ma décision, si vous voulez, ça me retient de mettre la main dans la poche. Donc vous voyez, il y a là comme ça un modèle très différent du modèle de l'agent économique qui est, je crois, extrêmement intéressant. Alors, deux minutes encore pour dire un mot sur le fait que prendre au sérieux cette idée amène à réfléchir très longuement et très précisément à ce qu'est le lien qui nous unit à autrui, que ce soit dans une société, que ce soit dans un groupe de travail, que ce soit bien sûr dans une entreprise. Or, vous savez que le béaba du travail d'un manager, c'est justement de gérer ses liens, les liens qui l'unissent avec ses collaborateurs, les liens qui unissent ses collaborateurs entre eux. Et c'est en ce sens qu'effectivement, il y a là du grain à moudre pour qui veut réfléchir aux questions de management. Alors, cela nous amène naturellement très rapidement aux réflexions sur la justice et l'injustice. Il est bien clair que l'amitié, ce lien, cette qualité de relation sociale ne peut pas durer dans des situations d'injustice. Aristote dit très clairement qu'il peut y avoir de l'amitié, c'est-à-dire un lien social de qualité entre des inégaux, mais il ne saurait y avoir de lien d'amitié lorsqu'il y a relation d'injustice, ce qui est une idée très forte et qui pose des problèmes majeurs quand on réfléchit à la manière dont on peut organiser une entreprise. Et de manière concrète, appliquée par exemple au domaine salarial, ça amène à s'interroger sur une révolution dans les politiques salariales qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années, 30 ans maintenant, qui a consisté à modifier le critère ou l'étalon à partir duquel on calculait les salaires. Jusqu'au fond, dans les années 70, les salaires étaient calculés au sein des entreprises et l'on définissait, mais concrètement, pratiquement, le salaire d'un nouveau collaborateur en fonction de celui de ses collègues, de son supérieur hiérarchique et de ceux qui étaient en dessous de ses collaborateurs. Et depuis les années 80, on est passé de ces marchés internes du travail à une définition des salaires par les marchés externes. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a un marché des femmes et des ménages, puis il y a un marché des dirigeants. Et naturellement, ça a eu pour conséquence de faire dégringoler le salaire des femmes de ménage, disons des salariés les moins qualifiés, et à contrario, de faire monter le salaire des dirigeants les plus élevés. Et l'une des sources de l'explosion des inégalités que l'on observe dans toutes nos sociétés, mais que l'on observe de près quand on regarde les entreprises, tient à cette évolution dans le mécanisme dont on définit ce qui est un salaire juste et un salaire injuste. Alors, je vais là maintenant rapidement terminer. Il y a plein d'autres choses à dire sur le commandement, sur, juste un mot, sur un concept tout à fait passionnant d'Aristote qu'il appelle l'acrasia. Alors l'acrasia, on a traduit ça en latin par incontinence. Ça a donné en français incontinent, en anglais incontinence. Alors l'incontinence, ça nous fait penser aux incontinences urinaires. Ça n'a évidemment absolument rien à voir. Aristote, l'exemple de l'incontinent, c'est celui, je disais tout à l'heure, celui qui fait quelque chose, alors même qu'il sait qu'il ne devrait pas le faire. Et les auteurs américains qui sont beaucoup intéressés à ces questions dans les années 80 parlent plutôt de faiblesse de la volonté, qui est une définition, une traduction qui n'est pas excellente, mais qui est plus raisonnable qu'incontinent, ça n'a pas les mêmes connotations. Et cette question de l'incontinence est passionnante parce qu'elle est au cœur des discussions éthiques. Pourquoi ferme-t-on les yeux sur les conflits d'intérêts? Pourquoi accepte-t-on les petits arrangements entre amis? Ou pire encore, l'argent de la corruption, alors même que nous savons que c'est une erreur. Et là, on a, si vous êtes trouvés les uns ou les autres face à des gens corrompus, on en rencontre dans nos entreprises, des gens qui acceptent de l'argent d'un fournisseur, on s'interroge toujours, mais pourquoi l'ont-ils fait alors même qu'ils savaient que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas le faire? Et là, on a là des outils pour essayer de comprendre des comportements tellement fréquents et tellement destructeurs. Voilà, je pourrais continuer, hein, puisque le livre est long, mais je vais vous laisser maintenant, Thierry, le soin de...
Merci Bernard Girard, qui... c'est intéressant de voir comment un auteur choisit en 20 minutes ou quelque chose de présenter son œuvre. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas ? Et c'est intéressant de voir ça. Évidemment, les thèmes que vous avez introduits, on va continuer à les discuter, on va en introduire d'autres, mais pour l'instant, on va écouter Michel Seguin pendant 10-15 minutes. Comment, Michel, vous avez lu ce livre ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Michel Seguin est professeur à l'UQAM, titulaire de la chaire de coopération Guy Bernier, auteur de « Gérer la dimension éthique en entreprise ». C'est un monsieur qui travaille énormément dans les mêmes plates-bandes que Bernard ou que moi en éthique et affaires, éthique et management. Alors, Michel, votre point de vue.
Merci. D'abord, contrairement à Bernard, je n'ai pas trouvé son livre long. Il s'est lu assez rapidement et assez clairement. Donc, je lui en remercie. Je le félicite pour ça. Pour faire vite, comme j'ai 15 minutes, j'ai préparé mes commentaires en fait sur deux grands thèmes que j'ai retrouvés dans le livre et que j'ai retrouvés aussi lors de mes formations en philosophie et surtout sur Aristote à l'Université de Montréal. On l'a pas mis de côté, Aristote. On avait un des principaux interprètes d'Aristote, M. Bodéus, qui nous donnait des classes et puis on avait la chance. On comprenait pas toujours ce qu'il disait, mais on le suivait. Je me rappelle, j'enregistrais ses cours avec un enregistreuse et je réécoutais le soir parce que je comprenais rien sur le moment, mais ça me prenait du temps. Le livre et l'interprète étaient difficiles à comprendre. Les deux thèmes que je veux travailler, c'est la nature de l'homme, parce qu'Aristote en parle beaucoup, et aussi la nature de l'entreprise ou la nature du gouvernement et les enseignements qu'Aristote nous donne. Concernant la nature de l'homme, on va commencer avec celui-là. Merci pour l'introduction en lien avec ce qu'on enseigne à nos étudiants. Mais lorsque je commence une classe, lorsque je rencontre mes étudiants pour la première fois, j'enseigne la gestion de l'éthique en entreprise, je leur pose une question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en respectant les règles de conduite, vous allez, le fait de respecter les règles de conduite va être garant de votre succès professionnel? Et c'est évident, j'ai toujours deux types de réponses, généralement. Une réponse qui est très cynique. Donc, les gens vont me répondre, ben, écoutez, non, pas du tout, si je veux réussir, je dois prendre des lignes droites, je dois accepter des pots de vin, je dois en offrir. Bref, je dois suivre les règles du jeu lorsque je serai sur le marché du travail. Et l'autre, j'appellerais plus la réponse idéaliste. Oui, mais à long terme, il va y avoir une main invisible qui va remettre la justice, blablabla, blablabla, un peu cette pensée magique que la justice est un phénomène naturel et non pas intellectuel et que il va arriver un facteur qui va venir faire en sorte que le méchant sera puni, comme dans les beaux films américains. Enfin, bref, une fois que j'ai fait ça, je leur pose la question, mais pourriez-vous me définir c'est quoi pour vous le succès professionnel? Et là, oups, ils n'ont pas de réponse. Si ce n'est que, ben, c'est de faire des sous ou, à la limite, obtenir une promotion, avoir du pouvoir. Mais quand je vous dis qu'ils n'ont pas de réponse, c'est que ces réponses-là sont comme intrinsèques, innées dans leur tête. Ils n'ont pas réfléchi à c'est quoi le succès. Alors, je leur pose la deuxième question parce que je me retrouve devant une gang de carpes, il faut bien que mon cours se donne. Je leur pose la deuxième question. Oui, mais dans le fond, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être heureux au travail? Vous voulez être, c'est le bonheur que vous voulez atteindre au travail. Et quels seraient les facteurs pour vous qui pourrait contribuer à votre bonheur? Et là, ça commence à sortir les réponses. Ben, conciliation travail-famille, être utile, être reconnu. Enfin bref, une panoplie de caractéristiques qui, logiquement, ne sont pas atteignables, si ce n'est qu'en adoptant des comportements cohérents avec un système de valeurs qui est partagé par l'ensemble des personnes. Donc, les étudiants ont une idée du succès. Donc, ça peut-être expliquer un truc qui est comme inné. Peut-être qu'on a enseigné ce succès-là dans les écoles de commerce. Mais pour eux, l'idée d'aller sur le marché du travail pour être heureux, c'est quelque chose qui auquel ils n'avaient pas réfléchi et aux facteurs qu'il y en a. Et c'est là que je reviens à Aristote. Pour Aristote, la notion de bonheur, dans sa conception de l'éthique, elle est fondamentale. Pour lui, la nature de l'homme, on peut parler d'Aristote comme étant un des premiers... avoir pratiqué la psychologie éthique, pour lui, il estimait que l'individu avait une caractéristique, c'est que lorsqu'il se comportait de façon cohérente avec sa raison, il se sentait bien, il avait un senti positif, il ressentait quelque chose de positif, et contrairement, lorsqu'il adoptait des comportements non rationnels, ou il avait un ressenti qui était plutôt négatif, il se sentait malheureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'adopte pas tous les jours des comportements qu'on le considère irrationnels ou qui sont pas raisonnables. Le simple fait est qu'on a ce ressenti-là. On peut l'interpréter au niveau éthique comme le sentiment de culpabilité, par exemple, lorsque je prends dans la poche de mon collègue sans l'avoir averti. Je peux le faire moi aussi. Et c'est ça. Donc, d'avoir compris d'abord cette caractéristique de l'homme-là et de pouvoir faire l'adéquation entre l'adoption d'un comportement vertueux ou d'une vie vertueuse, qui parle plus d'avoir des actions qui sont conformes à notre raison et à une vie vertueuse et garante du bonheur. En fait, la vertu, c'est le respect des règles, et le respect des règles qu'on a identifié suite à une délibération, donc une approche objective de l'éthique, nous amène à la fin de notre vie, finalement, à dire, ben, écoutons, j'ai eu une vie heureuse. Ben, mes étudiants, ben, j'ai eu une vie heureuse, j'ai eu une vie professionnelle qui est heureuse. Ça implique, bien entendu, une vision objective. Je reviens là-dessus, c'est important, ça implique qu'on est capable d'identifier de façon objective c'est quoi ces règles-là. Puis bon, Aristote donne plusieurs pistes pour pouvoir y arriver. D'où deux questions que j'aimerais poser à l'auteur, tu pourras y répondre par la suite. Ça amène l'idée que le bonheur, finalement, ce serait un peu comme l'indicateur de performance que ce qu'on a fait est rationnel. Si on a une vie heureuse, si on fait quelque chose puis qu'on a un senti qui est positif, ce senti-là, cette émotion-là, serait comme un indicateur de performance que, finalement, c'est conforme. Lorsque dans ton bouquin, tu dis « j'ai investi dans des actions, j'ai perdu, mais je savais que mon investissement était pas rationnel parce que si je lisais les journaux, je savais bien que ça allait pas fonctionner, je savais bien qu'on était dans une mauvaise période, mais je l'ai fait quand même par avidité, par souci de gain ou je sais pas pourquoi, mais je me suis pas senti bien après avoir pris cette décision-là. » Donc, la question que je pose, c'est, bon, cet indicateur de performance, est-ce qu'on peut dire que c'est un indicateur de performance? Et le cas échéant, ce qui m'a toujours un peu fasciné au niveau de l'entreprise, au niveau des gens qui œuvrent au sein d'une organisation, c'est, en fait, la continuelle... les gens sont toujours en appétit. C'est-à-dire que même s'ils obtiennent quelque chose, une promotion, un salaire, une qualité de vie... On dirait qu'une fois qu'ils l'ont obtenu, ils veulent avoir l'échelon au-dessus, l'échelon au-dessus, l'échelon au-dessus. Je lisais dans le point dernièrement, justement, les Français étaient parmi les gens qui étaient les plus déprimés, donc les plus malheureux. Et pourtant, lorsqu'on regarde le niveau de vie des Français, ils se comparent de façon très favorable à l'ensemble des pays du monde, en tout cas de ceux qui faisaient partie de... En tout cas des pays africains, tout au moins, ou des pays asiatiques, ou des pays... Alors, est-ce que... en fait, ce sentiment de satiété, cette insatiété-là, vu que ça nous amène à un senti qui est négatif, serait irrationnel? Ou est-ce que le fait de toujours en vouloir plus, c'est quelque chose de rationnel parce que c'est une des caractéristiques autres de l'être humain, ce besoin de toujours en vouloir plus, c'est ce qui le rend heureux, en quelque part. J'ai le goût d'avoir une promotion, j'ai le goût d'avoir une maison, dès que j'ai ma maison, je veux un chalet, dès que j'ai mon chalet, je veux... Donc, ce sentiment d'ennui-là serait irrationnel puisqu'il nous rend malheureux si on prend comme indicateur de performance le senti qui est le bonheur. Donc, j'aimerais t'entendre sur cet aspect-là. Concernant le commentaire sur la nature de l'entreprise, j'ai trouvé très courageux de ta part de regarder l'entreprise sous les yeux d'Aristote parce qu'Aristote, ben, c'était très, très politique, hein, quelque part. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la gouvernance de la cité, non pas la gouvernance nécessairement des entreprises ou des associations de l'époque. À la limite, pour lui, c'était ville, en quelque part, que de s'attarder à cet aspect-là. Et quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, oui, mais il s'attaque à quelque chose. Puis d'ailleurs, j'avais voulu écrire un article, puis j'essayais d'argumenter, puis je bloquais. Et je me suis rappelé un peu, en fait, et ça a permis de légitimer un peu cette approche-là. Nozick, lorsqu'il explique d'où viennent les entreprises, d'où vient l'État, qui explique quelle est la genèse de l'État, en fait, pour Nozick, qui a écrit « Anarchie, État utopie », qui est un penseur très libéral, qui n'est pas un libertarien parce qu'il accepte un État minimal, mais il a justifié l'État minimal en disant que l'État, en fait, c'est une entreprise. En fait, c'est un monopole d'entreprise. Il y a, dans l'État de nature, plein de petites entreprises de protection qui sont nées. Et une fois que ces entreprises de protection-là sont nées, comme il y avait beaucoup d'économies d'échelle, ils se sont fusionnés. Et ces entreprises-là, en se fusionnant, sont devenues importantes, ont occupé un territoire et c'est devenu les États. Donc, il explique la genèse de l'entreprise comme étant un État, de l'État comme étant en fait une entreprise ou un monopole d'entreprise de protection. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, ben alors, si c'est une entreprise, puis qu'Aristote s'intéresse à ça, pourquoi on pourrait pas s'intéresser de la même façon aux autres types de monopoles, aux autres types d'entreprises? D'autant plus qu'aujourd'hui, bon, c'est sûr que Nozick disait l'entreprise qui est l'État, en quelque part, elle a une caractéristique, c'est qu'elle détient le monopole de la coercition. C'est elle qui décide, j'arrête qui, je donne des sanctions, je punis, je fais des règles, contrairement aux autres entreprises. Mais quand on regarde les entreprises d'aujourd'hui, l'importance qu'elles ont acquise, les monopoles qu'elles ont des fois sur des biens qui sont souvent essentiels, on peut se poser comme question, mais elles aussi détiennent un moyen de coercition. Et ce faisant, ces entreprises-là devraient être un peu gérées en fonction d'une même logique, en quelque part, que pourrait être, en tout cas, on peut se poser la question, que peut l'être l'État. Donc, c'est là que m'est venue en tête la situation suivante. Quand je regarde les entreprises d'aujourd'hui, j'ai fait le parallèle un peu avec la cité dans l'époque d'Aristote. Dans l'époque d'Aristote, bon, on parle de démocratie, hein, la Grèce était... Mais il demeure que c'était pas tout le monde qui avait le droit de vote. Hein. C'était les propriétaires qui avaient le droit de vote, les citoyens. Puis pour être citoyen, un des premiers... d'une première caractéristique, il fallait avoir une propriété terrienne. Alors aujourd'hui, dans les entreprises, c'est qui détient le pouvoir? C'est ceux qui détiennent les moyens physiques de production. C'est les propriétaires. Donc on peut faire un peu ce parallèle-là. Et avec toute l'évolution, on a déterminé que les dirigeants de l'organisation, qui est l'État aujourd'hui, devaient détenir une certaine légitimité. Et avec l'évolution, ben, ils sont élus démocratiquement, non plus juste par les propriétaires terriens. Même à la ville de Montréal, avant, c'était juste les propriétaires d'immeubles qui avaient le droit de vote. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la collectivité. Alors pourquoi dans l'entreprise aujourd'hui, les dirigeants de l'organisation sont élus uniquement par ceux qui détiennent les moyens physiques de production? D'où vient cette légitimité-là? Et c'est là que je viens à la deuxième question qui m'a suscité ton livre, c'est que tu parles beaucoup du gestionnaire, et pour qu'il puisse jouer son rôle correctement, il doit être perçu par les tiers comme étant quelqu'un qui a à cœur leur intérêt. Hein, ça fait partie des caractéristiques. D'ailleurs, pour Aristote, le summum de la vertu, c'est de devenir un dirigeant. Pourquoi? Parce que comme dirigeant, on veut avoir son propre bonheur, mais en même temps, on veut assurer le bonheur de l'ensemble de la collectivité. Tu parles aussi que le dirigeant d'entreprise est un peu comme, moi je l'appelle souvent l'agent de circulation, un carrefour où tu as différentes parties prenantes et il doit médier entre les intérêts divergents. Il doit s'assurer que les conditions de travail respectent les intérêts des travailleurs, que les fournisseurs reçoivent quelque chose qui soit... favorable, que les consommateurs obtiennent un produit à un prix qui est raisonnable, puis en même temps aussi que les investisseurs reçoivent. Donc, il est comme un peu un médiateur dans un carrefour, sans compter aussi hein, qui doit médier avec les intérêts de l'ensemble de la collectivité. Mais est-ce qu'on peut... quelle légitimité qu'on peut donner à cette personne-là qui joue un rôle lorsqu'elle est redevable, en fait, à uniquement une des parties prenantes, qui est les investisseurs, et à la limite, je dirais même... aux membres du conseil d'administration, parce que souvent, on peut penser que les membres du conseil d'administration sont pas toujours, quand on regarde les salaires des dirigeants, sont pas toujours en lien avec l'intérêt de l'ensemble des investisseurs. Donc, la question est la suivante, est-ce que avec le modèle d'organisation qu'on a aujourd'hui, on peut penser qu'un gestionnaire d'organisation puisse être un gestionnaire vertueux? Est-ce que le modèle l'aide à pouvoir détenir la crédibilité nécessaire par les parties prenantes pour pouvoir les motiver, les mobiliser, atteindre les objectifs de l'organisation? Je m'arrêterai là pour l'instant. Tu m'avais dit 5 minutes, il y a 5 minutes. Donc, je vais être discipliné, je vais respecter la règle et je vais être heureux quand je vais me coucher ce soir.
Merci, Michel. Moi, je suis content que Bernard et Michel vous preniez des exemples de vous piquer dans la poche respectivement. Alors, laissez ça de votre côté. Venez pas m'embêter ici. C'est bien qu'ils s'empruntent mutuellement. Là. Laissez ça là. Et puis, pour les Français déprimés, vous entendez mon accent que je suis pas trop né dans la Beauce, là. Moi, je peux vous dire que je ne le suis pas parce que ça fait 22 ans que j'habite le Québec. Alors, je vais prendre les deux questions. On va commencer notre dialogue et je vais demander à Bernard peut-être... en 4-5 phrases, commencer à faire des réponses aux questions posées par Michel. La première, c'est est-ce que le bonheur est un indicateur de performance? Et la deuxième, c'est est-ce qu'un gestionnaire, c'est un médiateur de différents intérêts?
Je commencerai par la seconde question. Tu as prononcé le mot « vertu », je crois. Mm-hmm. Et effectivement, je termine ce livre en m'interrogeant sur la possibilité de développer une vertu du management. Et je l'ai fait pour deux motifs. D'abord, parce qu'effectivement, Aristote a développé ce qu'on appelait une éthique des vertus. Et c'est ce qui la distingue, c'est ce qui distingue son éthique de l'éthique kantienne ou de l'éthique conséquentialiste. Mais aussi parce que cette réflexion sur les vertus, depuis une quinzaine d'années, se développe dans des domaines assez différents. Et on voit, par exemple, des épistémologues, donc des spécialistes de la philosophie des sciences, s'interroger de manière extrêmement sérieuse, austère, sur ce que pourrait être la vertu d'un savant, d'un scientifique. La vertu, il faut être prudent, hein, retirer tout ce que des couches épaisses de thomistes, d'églises catholiques ont mis sur le mot vertu. Le mot vertu, c'est la traduction, c'est le latin virtus, qui est la traduction du grec arrêté. Et arrêté en grec, ça veut plutôt dire excellence. Hein, on n'est pas dans la vertu morale, on est plutôt dans l'excellence. Quelle serait donc l'excellence d'un savant ou celle d'un manager? Alors, la question n'est effectivement pas facile à traiter, à résoudre. C'est plutôt une question ce livre se termine par une question. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et je donne quelques pistes. Et l'une de ces pistes est effectivement cette idée que ce que j'appelle dans mon vocabulaire le manager, mais vous dites plutôt ici gestionnaire, le gestionnaire vertueux, un des éléments de cette vertu, c'est justement de se soucier autant de l'intérêt des autres que de son intérêt propre, de prendre des décisions qui concilient son intérêt personnel et l'intérêt d'autrui. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, bien souvent, on s'aperçoit qu'ils se soucient d'abord de leur intérêt personnel et se soucient peu de l'intérêt des autres.
Mais Bernard, je comprends que vous répondez aux deux questions en même temps posées par Michel, mais si j'ai bien entendu Michel, il s'est demandé, est-ce que le gestionnaire doit être l'arbitre? Est-ce que c'est sa fonction de devenir un arbitre? Même si c'est un bon arbitre, c'est comme ça que vous répondez, est-ce la fonction du gestionnaire d'être l'arbitre ou doit-on venir, cet arbitrage doit-elle venir d'autres
cieux? Quand on parle d'autrui, qui est-ce autrui? Autrui, c'est ce qu'on appelle, ce que Friedman appelle les parties prenantes, c'est-à-dire en fait d'un côté les clients, de l'autre les fournisseurs, les salariés et évidemment les capitalistes, les investisseurs, ceux qui apportent des fonds à l'entreprise. Et le rôle du gestionnaire, c'est effectivement de trouver le bon point d'équilibre, ce qui n'est évidemment pas facile, mais le bon point d'équilibre entre les intérêts divergents de ces différents acteurs. Et la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est que tout est totalement déséquilibré pour des motifs historiques. Les salariés n'ont plus leur mot à dire parce qu'il n'y a plus de syndicats. Les choses sont très simples. Il n'y a plus de syndicats, donc il n'y a plus personne ne les représente. Les consommateurs sont inexistants aux yeux de beaucoup de grandes entreprises, malgré tous les couches épaisses de discours qui sont prononcées. En fait, on ne s'en soucie pas vraiment et il faut des scandales. Il y en a nous avons ici actuellement en Europe, en France, le scandale du Mediator, qui est un médicament dont vous avez peut-être entendu parler. On a un exemple d'un industriel qui ne soucie absolument pas de la santé. Il y a eu un millier de morts tout de même. Absolument pas de la santé des gens qui
s'occupent de ça. Qui a invoqué des causes conséquentialistes pour dire qu'il avait mis le produit quand même en marche.
Mais exactement, absolument, oui, tout à fait. Et alors c'est compliqué parce que ça touche, il y a l'industriel, il y a les médecins, enfin c'est très compliqué. Donc effectivement, il y a ces différentes parties prenantes et le gestionnaire est celui qui sait trouver le bon point d'équilibre entre ces différentes parties prenantes. Mais c'est pas simplement ça le bon gestionnaire, c'est aussi celui qui sait, quand il prend une décision, trouver la bonne distance, c'est-à-dire à la fois voir dans le futur, voir dans le passé et essayer de trouver le bon point d'appui. C'est au fond celui qui est capable de trouver le bon équilibre entre les différentes contraintes et c'est ce qui rend effectivement son travail particulièrement difficile et c'est ça ce que serait la vertu et ce vers quoi devrait tendre le gestionnaire vertueux, si toutefois cette notion de gestionnaire vertueux est un objectif vers lequel on peut espérer tendre.
Merci Bernard. Moi je vais, c'est dangereux avec ça puisque je suis facilitateur et intervenant en même temps, je vais demander à Michel de voir si je me facilite pas trop la vie, puisque je me mets moi-même en onde là. Au lieu de prendre moins un quart d'heure, je vais faire un commentaire général sur le livre, et puis ensuite je vais commencer à poser des questions une par une, Bernard, où il pourra me répondre. C'est les questions de mon choix, et puis ensuite ça sera les questions de votre choix. Le commentaire général, c'est acheter ce livre. C'est enfin un bouquin qu'on comprend, écrit sur Aristote. Vous savez, c'est pas facile ces temps-ci de trouver quelqu'un qui écrit en philosophie, avec la rigueur philosophique bien sûr, non pas triviale, et qui arrive à écrire en français, et non seulement en français, mais compréhensible par les gestionnaires. Ceci est rare, bravo Bernard, d'avoir réussi, d'avoir écrit un livre qui se lit bien, qui se lit vite, mais qui fait penser, qui ne tombe pas dans la trivialité, mais qui évite le jargon. Vous savez, comme nous, que l'un des problèmes de l'éthique que nous avons aujourd'hui, en tout cas c'est mon sentiment, c'est cette fragmentation que nous avons. Les médecins qui parlent médecine et on comprend rien, les financiers qui parlent finance et on comprend plus rien, les gestionnaires qui parlent gestion et on comprend plus rien non plus, les comptables s'y mettent, les mathématiciens, les philosophes aussi. Alors il est nécessaire, dans une optique d'intergénéralité ou d'interdépendance ou d'interscience, il est nécessaire justement de quitter un peu nos jargons et de pouvoir se parler les uns les autres. Alors merci de nous inviter au dialogue, de rentrer dans la pensée d'Aristote et de l'appliquer au monde dans l'entreprise. Ceci est un fait rare que je voudrais souligner. Voici mon commentaire général. Maintenant, les questions, je vais commencer, c'est... Bon, vous nous avez expliqué, Bernard, que la genèse de ce livre. Classiquement, en éthique, en philosophie morale, on regarde trois groupes. Kant, Bentham, Aristote. C'est le trio, hein, c'est... Et ma question, évidemment, c'est pourquoi pas les autres ? C'est-à-dire, la philosophie classique nous donne trois traditions. Oui, c'est vrai, il y a Immanuel Kant, il y a George Stuart Mill, et puis il y a Aristote qui est pris par défaut. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à utiliser les deux, on arrive bien sûr au troisième, et comme Bernard a bien dit, depuis 20-25 ans, on remet Aristote, parce qu'on se servit tellement des deux premiers, on remet Aristote à l'honneur. Mais bon, avec ce qui se passe dans le monde, en Inde par exemple, et la montée de l'Inde dans l'économie, pourquoi pas Mohammed Gandhi ? Avec la montée de la Chine, pourquoi pas Lao Tzu, pourquoi pas Confucius ? Avec la montée du féminisme, par exemple, pourquoi pas Simone Veil ou Simone de Beauvoir, etc., etc. D'où ma première question, pourquoi revenir dans une dichotomie, une typologie classique philosophie qui préfère trois auteurs sur tous les autres ?
Oh, la raison est double. C'est d'abord ma culture. Et mon envie de lire Aristote. Alors c'est un peu égoïste, c'est un drôle d'argument, mais enfin ça y contribue. Et puis le fait que à la lecture d'Aristote, on découvre que chez les grands Grecs, Platon, Aristote, Parménide, Héraclite, Lucrèce, enfin les grands auteurs de l'Antiquité, c'est quand même le ferment, le terreau sur lequel nous construisons siècle après siècle nos pensées. Alors évidemment, il s'est passé plein d'autres choses depuis, mais là quand même, quand on lit, que ce soit Platon, que ce soit Aristote, qui ne sont pas d'accord sur plein de choses d'ailleurs, que ce soit Lucrèce, il y a quand même les idées centrales les plus fortes autour desquelles on peut construire. Alors ensuite, évidemment, il y a plein d'autres choses. On aurait pu regarder du côté de Husserl, on aurait pu regarder du côté de Lévinas, par exemple, plein d'autres auteurs. Mais là, véritablement, on a en plus une démarche assez intéressante parce que, à l'inverse des philosophes traditionnels, Aristote s'est intéressé à la politique. Il a été le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc, il a touché au pouvoir. Il a touché à la rhétorique. C'était vraiment un philosophe dans la ville. Les autres sont des profs. Alors c'est très bien d'être prof, mais un prof, ça n'est pas tout à fait la même chose. Là, c'était quelqu'un qui véritablement touchait, quand il parle du commandement, par exemple, il nous dit des choses qui sont construites sur, effectivement, le fait qu'il a formé un empereur, qu'il a vu ce que c'était, qu'il a réfléchi, travaillé, comme pourrait faire aujourd'hui le conseiller d'Obama, par exemple. Sauf qu'il n'y a pas de philosophe à côté d'Obama. S'il y en a, on ne sait pas encore.
Enfin. Oui, mais d'où ma question. Enfin, loin de moi de dire qu'Aristote, ce n'est pas important, c'est un auteur fondamental. Mais c'est sûr qu'en ne prenant pas, je ne sais pas, par exemple, Bratland, en premier ministre de la Norvège, on parle pas d'écologie. C'est-à-dire, si on prenait Rachel Carson, on parlerait aujourd'hui de développement durable et des choses comme ça, qui est absent chez Aristote. D'où ma question. J'ai une seconde question. Et j'aimerais bien, Bernard...
Il y a une place dans la nature. Ouais. Je ne l'ai pas développée là, mais alors, Aristote parle énormément de la nature. Non, alors là, je ne l'ai pas du tout développé.
La nature, oui.
Oui, il parle beaucoup de la nature et on pourrait probablement, alors il faudrait relire les textes en détail, mais retrouver chez Aristote des thématiques, hein, qui intéresseraient les spécialistes de l'écologie.
Ça serait intéressant. Oui. Si on pouvait dériver de Aristote une espèce d'écologie de l'esprit, là. Je me mesure mes mots, ça serait tout à fait intéressant.
Je pense qu'on pourrait, il faudrait regarder dans le détail les textes.
Hein. J'ai une deuxième question pour vous, Bernard. Allez, vous avez parlé tout à l'heure de cette recherche de l'excellence, des vertus, etc., et de cet aspect fait résonner. Et vous avez parlé aussi de sa fonction sociale. Le lien entre la recherche de soi, de son bonheur, et le lien social est évidemment fait par l'amitié. Parce que si on ne parle pas d'amitié, on tombe dans le narcissisme, quoi. On tombe dans une adoration de soi et sa recherche de sa vertu et de son excellence pour son bien personnel. Alors, vous avez bien articulé, à mon avis, ce lien social-là. Mais est-ce que vous pouvez, parce que vous le faites très bien dans votre livre, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre une minute pour nous parler un petit peu de l'amitié et le rôle de l'amitié, cher Aristote?
Alors, tout part de cette idée que l'homme est un animal politique. Animal politique veut dire qu'il vit dans la cité et qu'il n'est pas indépendant de la cité, à l'inverse de Rousseau, comme je le disais tout à l'heure. Et cela amène donc Aristote à réfléchir à ce qu'il appelle, au lien social en fait, à ce qui nous unit les uns aux autres, qu'il appelle l'amitié, qu'il analyse longuement. Il en distingue différents types, différentes catégories. Alors il faudrait entrer dans le détail, parce qu'Aristote était quelqu'un qui faisait beaucoup de catégories, qui faisait beaucoup de listes, qui analysait dans le détail. Enfin, il est très, très dans la subtilité. Et surtout, il s'interroge un petit peu sur de qui peut-on être ami. Il dit un chef peut être ami de ses collaborateurs. Donc il peut y avoir des amitiés entre gens qui sont inégaux. Il peut y avoir une amitié entre un mari et une femme. Il peut y avoir éventuellement même une amitié entre le maître et l'esclave. Ce qui est assez intéressant, puisqu'il y a chez Aristote toute une théorie de l'esclavage qui est difficile à traiter, puisqu'effectivement, aujourd'hui, parler d'esclavage, on est un petit peu mal à l'aise, mais qui est assez passionnante. Et donc, il y a chez lui une réflexion, la première réflexion, à ma connaissance, sur le lien social, sur ce qui nous unit les uns aux autres et fait que nous faisons ensemble société, et aussi sur ce qui défait la société, ce qui défait la confiance, ce qui défait cette bienveillance, puisqu'il appelle l'amitié, c'est la bienveillance mutuelle, réciproque. Et c'est tout autour de ce thème-là qu'il développe assez longuement et qui, je crois, sont originaux et vont à l'encontre de la vulgate économiste qui, aujourd'hui, domine la pensée managériale ou gestionnaire contemporaine.
Alors, il reste 5 minutes sur les questions que j'ai choisies. Là, Bernard, vous repartez, page 42, vous développez beaucoup dans votre livre « L'amitié favorise la coopération ». Et donc, on retourne vers ce lien social à travers l'amitié. Ma difficulté avec ça, c'est que, vous le mentionnez, c'est que Aristote, en son temps, est pro-esclavagiste. Pourquoi ? Parce que le travail manuel, à l'époque, se fait par des esclaves. Et le travail est dénaturé dans la civilisation grecque. D'ailleurs, Aristote, Platon, Socrate diront, c'est le politique qui est à faire dans la vie. L'excellence vient du politique. Anna Arendt a un très bon livre qui démontre ceci chez Aristote. Et donc le travail chez les Grecs, étant donné qu'il était vu par des esclaves, était vu comme quelque chose de non conséquentiel, comme non important, même vilain. D'ailleurs, les commerçants en Grèce antique, les petits industriels, les prêteurs d'argent étaient vus comme des filous. C'était des gens qu'il fallait très surveiller parce que c'était dangereux de faire cela. Alors, moi, ça, j'honore bien sûr la Grèce antique, mais j'aime bien aussi des auteurs comme Adam Smith, par exemple, sur lequel je travaille, qui dit quelque chose de très juste sur Aristote. Il dit: la philosophie d'Aristote, de Platon, Socrate, est extraordinaire, les stoïques aussi, c'est superbe, sauf que ces gens-là n'avaient pas les moyens de production que nous avons aujourd'hui au XVIIIe siècle qui permettront de faire tourner des usines et de faire en sorte que les gens dans la rue vont avoir des chaussures et vont avoir quelque chose à manger dans leur assiette. C'est-à-dire que la critique de Smith, et je prends pas le Smith, la main invisible, magique, etc., c'est pas du tout ça, Adam Smith. Mais la critique de Smith, c'est de dire, c'est une philosophie qui n'avait pas les moyens technologiques de pouvoir réellement aider l'humain. Alors j'aimerais que tu répondes à cela.
Alors, d'abord, c'est un peu inexact. Il y avait des moyens technologiques importants en Grèce qui n'ont pas été développés. Et ça pose une question à l'ensemble des historiens des technologies qui s'interrogent et se demandent notamment si ce n'est pas de la faute de l'esclavage. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, sur, non pas l'esclavage, mais sur le travail. Il est vrai que dans la Grèce antique, et ce n'est pas seulement chez Aristote, le travail n'est pas une valeur centrale comme c'est chez nous. Et au point que, par exemple, Aristote explique, dans, je crois que c'est dans l'Éthique à Nicomaque, il me semble, vos enfants, c'est très bien qu'ils jouent de la cithare et du luth, mais surtout qu'ils n'en fassent pas trop, qu'ils ne deviennent pas des spécialistes, parce qu'à ce moment-là, ce deviendrait un travail, et la cithare ou le luth perdraient leur vertu éducatrice. Tu faisais allusion au fait que l'on ne considérait pas les paysans et les commerçants comme des gens tout à fait formidables. C'est pas tout à fait ça, mais Aristote se demande s'ils peuvent être des citoyens. Ce sont des citoyens, il se demande est-ce qu'ils peuvent être citoyens. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que le paysan ou le commerçant a autre chose à faire que d'aller passer ses journées à l'Assemblée pour voter.
Bon, il peut pas délibérer.
Il peut pas délibérer, donc il faut qu'il rentre chez lui travailler un petit peu. Donc évidemment, ça n'en fait pas un bon citoyen. Tout cela, évidemment, c'est très très loin de nous. Mais lire ces auteurs nous amène à nous interroger sur la place centrale que nous avons donnée au travail dans nos sociétés. Est-ce que cette place est légitime ? Est-ce qu'elle n'est pas excessive ? Ça nous permet également de réévaluer, de comprendre ceux qui, dans nos sociétés, refusent le travail. Ces jeunes gens qui quittent le monde du travail pour vivre en marge. Et vous savez qu'ils sont relativement nombreux, ils le font d'une manière ou d'une autre, mais qui sont relativement nombreux, et il y a là un refus de cette valeur centrale qu'est le travail, que nous avons du mal à comprendre, et que la lecture d'Aristote nous amène au fond à réévaluer. Peut-être avons-nous donné ou donnons-nous trop de place à la valeur travail dans nos vies. Après tout, on peut dire que le travail détruit tout, détruit les familles, détruit la société, détruit les loisirs. Et d'ailleurs, il y a chez Aristote une distinction capitale entre deux formes de loisirs. Il y a les loisirs de l'esclave. L'esclave, il va aller au cirque pour se reposer de ses efforts. C'est le loisir, la reconstitution de la force de travail dont parle Marx. Et puis, il y a le loisir du citoyen, qui va être la vie avec ses camarades, ses amis, les banquets, dans lesquels on va discuter librement de choses intelligentes. Il y a deux formes de loisir. Et il oppose bien le loisir, qui est une manière de reconstitution de la force de travail, du loisir libre. Et ça, c'est une réflexion, moi, qui me rappelle ce à quoi nous pensions à la fin des années 60, j'étais étudiant. Là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui me paraît toujours valide. Alors, bien sûr, imaginez que nous passions nos temps dans l'agora à discuter de la manière dont on pourrait nettoyer les rues de Montréal. C'est bien, c'est sympathique, ça s'appelle la démocratie participative, mais enfin, c'est peut-être pas nécessaire qu'on s'y mette tous, mais... ça peut quand même nous éclairer sur un biais de nos sociétés où on fait du travail la valeur centrale.
Merci Bernard. Jolie réponse qui nous convainc de nouveau de relire Aristote et de lire votre livre qui est encore une fois très bien fait. Michel, quelques mots sur l'intervention ou est-ce qu'on commence avec
la salle des gens à poser des questions.
Alors, vous avez un joli micro là-bas. Cette émission est enregistrée. Ce débat ce soir est enregistré. Ça va devenir une émission de radio. Et c'est pour ça que vous devez utiliser le beau micro que vous avez là-bas. Voulez-vous commencer soit une question pour Bernard ou Michel ou moi ou Aristote, et en se taisant et en mettant beaucoup de silence, peut-être on pourra l'entendre à travers les pages de cette librairie. Qui veut commencer ? Merci monsieur de commencer. Cette agora.
C'est à la fois une observation, puis j'imagine qu'on pourra en dégager une question. Mais j'ai 72 ans. Et puis j'observe que le travail, avec le sommeil, c'est ce qui accapare la grande majorité de la vie. Et j'observe également que c'est le sujet de réflexion le plus difficile à aborder avec les gens. Dans leurs activités conscientes dans la journée, le travail accapare un bon 8 à 10 heures. Comment se fait-il que les gens s'intéressent si peu à réfléchir leur vie de travail? Ça, là, c'est une chose qui me sidère.
Qu'est-ce que dirait Aristote sur ce sujet?
Ce que dirait Aristote, je ne sais pas.
Merci, monsieur, de votre question.
Je ne sais pas ce que dirait Aristote, mais il est vrai qu'on s'interroge relativement peu sur le travail. Ça tient probablement à ce que le travail fait société. C'est-à-dire que les entreprises sont devenues de véritables sociétés dans lesquelles on vit, on est pris en permanence dedans, et des liens qui sont du lien social, si nous s'y créent, qui nous occupent considérablement et en permanence. On ne se contente pas de travailler dans les entreprises. On travaille et puis aussi on fait la politique d'entreprise, de la stratégie, on fait du social en fait, on fait de la société, on fait de la, du lien social.
Et puis le travail aussi, c'est notre source d'identification. C'est-à-dire, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, dans les 5 premières minutes de la conversation, la question que vous allez te poser, c'est tu travailles où, tu fais quoi? Je me rappellerai toujours, quand je travaillais, j'ai travaillé dans mon jeune temps dans les caisses populaires, puis il y avait un monsieur qui était sur la commission de crédit, il était policier. Il venait de prendre sa retraite, et puis moi, après un an, je lui pose la question, oui, mais comment t'aimes ça, la retraite? Maintenant, t'as du loisir, tu peux réfléchir. Il me dit, ce qui est le plus difficile, c'est de pas être capable de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que, avant, je pouvais dire que j'étais policier, maintenant, j'ai plus d'identité. Je suis un retraité, et être retraité, c'est, donc, pourquoi on y réfléchit pas? Je pense qu'on y réfléchit au sein même de nos organisations. Cela étant dit, quand je vois mes étudiants qui restent comme des carpes à la question, c'est quoi pour vous le succès professionnel et comment vous envisagez votre niveau de travail? Je suis un peu bouche bée comme vous l'êtes aussi. À chaque fois que j'ai ce silence-là, les étudiants n'y ont pas pensé. Comme si il y avait une conception intrinsèque, innée, génétique de ce que c'était que le travail. On n'a pas besoin d'y réfléchir. Je vais rentrer dans une organisation, je vais obtenir des promotions, je vais obtenir un salaire. Ça va être ma contribution que je vais apporter. Je vais dire à mes copains, à mes copines que je suis rendu vice-président. D'ailleurs, nos étudiants, dans leurs associations étudiantes, se donnent des titres, hein, vice-président à la vie académique, vice-président ci, président, premier vice-président pour des petites associations étudiantes. Le titre est important. L'importance d'identification. Mais jamais ils se questionnent, est-ce que moi je vais être bien là-dedans? Est-ce que je vais être heureux là-dedans? En tout cas, tout au moins, nous, dans nos cours, je pense que Thierry le fait aussi, hein, on les fait réfléchir là-dessus, mais je peux vous dire qu'ils sont décontenancés.
L'un des ouvrages qui est fondamental dans le domaine, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, c'est L'Enracinement de Simone Veil, la philosophe, pas la ministre de l'Éducation. Et Veil, dans cet ouvrage, donnera une fonction théologique et spirituelle au travail, et aussi écologique, qui est tout à fait centrale dans ce qu'elle a fait. Beaucoup de gens, évidemment, ont proposé différentes avenues là-dessus. Quelqu'un d'autre veut poser une question à Bernard?
Il y avait peut-être Bernard. Qui...
Oui, je veux dire, pendant que vous préparez, une remarque sur le travail. Quand il se trouve que après avoir écrit ce texte, j'ai effectivement réfléchi un petit peu à cette question et j'ai observé que si les Grecs étaient extrêmement réservés sur le travail, le concept de travail ou la notion de travail a évolué dans l'histoire et on l'observe en lisant, alors c'est une lecture que je vous recommande, même si c'est un petit peu austère, la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire les règles des ordres monastiques, où on découvre que le travail est un outil utilisé par la communauté monastique pour dominer, discipliner les aspirations, les tentations. Donc c'est un outil de discipline. Et c'est uniquement avec Luther et Calvin, un petit peu plus tard, que le travail devient quelque chose de positif et devient une manière pour l'individu de découvrir, surtout chez Calvin, que Dieu l'a choisi, qu'il a été élu. Et ensuite, c'est une thèse qu'on retrouvera chez Max Weber. Mais, monsieur.
Oui. Moi, je me pose la question... comment c'est possible pour des personnes, des individus, des gestionnaires, puis même des étudiants puis des étudiantes que vous formez, d'être éthiques quand ils tombent dans le système capitaliste puis qu'on sait comment est-ce que les entreprises fonctionnent? Ou dans les entreprises, en tout cas moi, de ce que je connais, c'est d'essayer de faire les profits au maximum à ce moment-là, hein? C'est au plus fort la poche. On regarde ce qui se passe ici au Québec avec l'usine de Electrolux, qui était à Joliette, qui déménage, qui s'en va aux États-Unis parce que aux États-Unis, les salaires sont moins élevés qu'ici au Québec. Et ils se foutent complètement à ce moment-là, hein,
que toute cette communauté-là, hein, toutes les emplois qui sont perdus, tous les impacts sur les familles, sur justement toute la société, sur la municipalité, hein, même au niveau du gouvernement, hein, le ministre au niveau là de l'économie, au niveau des relations internationales, est même pas capable d'entrer en contact avec les responsables, hein, de cette compagnie-là. Parce que le ministre voudrait leur faire des propositions, puis je ne sais pas s'il va réussir à rentrer en contact. Hein. Ou dans l'entreprise, à ce moment-là, ce que les employés ou les gestionnaires ou les étudiants qui s'en vont là, hein, voient que l'entreprise essaye de payer le moins d'impôts possible, hein, pour encore faire le plus de profit. Puis on sait qu'au niveau des impôts, si les entreprises ne payent pas les impôts, c'est tous les citoyens puis les citoyennes, puis souvent, c'est du monde à bas salaire qui vont payer des impôts pour que le gouvernement puisse donner des services d'éducation, okay, des services à ce moment-là au niveau de la santé. Hein.
Si j'entends bien votre question, monsieur, vous parlez, est-ce que un système capitaliste dur peut être éthique? Est-ce que ça résume un petit peu ou est-ce qu'on peut l'être au sein de ce système qui est dur? Bernard, vous voulez vous essayer là-dessus? Que nous dirait Aristote? Est-ce que Aristote aborde la question?
Non, mais il a un concept qui peut aider à comprendre une des questions que vous posiez. C'est le concept de demi-citoyen. Il y a, chez Aristote, cette idée qu'un certain nombre d'individus ne sont pas tout à fait des citoyens complets, ce sont des demi-citoyens. Et c'est un statut que l'on observe de plus en plus dans nos multinationales, où nous avons des gens, je vais prendre l'exemple, de Français qui vivent en Grande-Bretagne, qui ont fait des études brillantes en France, qui vont travailler en Grande-Bretagne, qui sont patrons d'entreprises en Grande-Bretagne et qui prennent là des mesures, des dispositions comme dirigeants sans se soucier une seconde de la communauté britannique, tout bêtement, parce qu'ils sont français et qu'ils n'appartiennent pas à la communauté. Et on voit ce statut très particulier se multiplier aujourd'hui avec l'internationalisation, où on a des gestionnaires qui ne sont par rien liés à la communauté à laquelle ils appartiennent. Et le cas d'Electrolux dont vous parliez, il y en a, on pourrait en citer 1000 cas comme ça, bien sûr. C'est le cas typique où les gens qui prennent des décisions n'ont aucun lien d'aucune sorte avec la communauté qu'ils détruisent. Ils n'ont ni frère, ni enfant, ni cousin, ni ami qui va souffrir de leurs décisions. Et ça, c'est un des aspects du capitalisme que nous connaissons aujourd'hui, qui n'était pas tout à fait vrai il y a 50 ans, qui est quelque chose assez particulier.
Ben, c'était un peu la question que j'adressais lorsque je posais le manager vertueux, hein, quelque part, ce manager vertueux-là, peut-il être vertueux, c'est-à-dire parce que parmi les caractéristiques qu'il doit adresser le bonheur de l'ensemble des parties en cause, hein, je veux dire, c'est pour ça que on va dire de lui que c'est la tâche la plus noble. Est-ce que ce leader-là peut faire ce type peut avoir ce type de caractéristiques-là, cela tout en prêtant allégeance finalement à une des parties prenantes? Je dis pas qu'on doit pas favoriser l'intérêt des investisseurs, mais la personne qui est censée, si on reprend le texte d'Aristote, qui est censée favoriser ou médier l'intérêt de tout un chacun pour maximiser le bonheur à l'intérieur de, ou pour favoriser le bonheur à l'intérieur de l'organisation, peut-il le faire ou a-t-il la légitimité de le faire si le pacte qu'il a fait, c'est avec une seule partie prenante?
Oui, je crois qu'il faut aussi, pour répondre à cette question, regarder du côté des institutions. Mm-hmm. Tout à l'heure, monsieur parlait des impôts. Vous n'avez pas dit, mais vous le pensiez sans doute, que je ne sais pas comment c'est ici, mais en Europe, c'est la course au moins d'impôts. Et il y a eu...
Pour les particuliers, les entreprises.
Pour les entreprises, les sociétés, c'est pas pour les particuliers, pour les sociétés. Ici, c'est en Europe.
C'est-à-dire, ici, on a, les particuliers essayent de sauver de l'impôt, les entreprises essayent de sauver de l'impôt. C'est-à-dire, oui, que ce pli-là, on le retrouve.
Mais nous avons en Europe une course ouais, à l'échalote à qui paiera le moins d'impôts. Et nous avons eu une illustration il y a quelques semaines. Vous savez que l'Irlande a de grosses difficultés. Vous savez que l'impôt sur les sociétés en Irlande est très faible. Il est la moitié à peu près de ce qu'il est ailleurs en Europe. Et lorsque les gouvernements européens, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, ont donné de l'argent aux Irlandais pour les aider, les dirigeants de ces différents pays ont dit aux Irlandais, écoutez, vous allez relever l'impôt sur les sociétés. Et les Irlandais ont dit, pas question. Et on a cette course à l'échalote, à toujours moins d'impôts, qui légitime et justifie le fait que les dirigeants, évidemment, passent leur vie à essayer d'échapper à l'impôt, puisque les États qui devraient réguler, réglementer, corriger, leur disent, mais vous avez raison, d'ailleurs, on va aller dans votre sens, on va réduire les impôts. Là, je crois que c'est un exemple, si vous voulez, où la régulation est indispensable, et si elle est abandonnée, si elle est négligée, eh bien, on se trouve avec le développement de pratiques qui évidemment, sont suicidaires, puisque s'il n'y a pas d'impôts, on ne peut plus financer l'éducation, la santé, ni rien. Enfin, je veux dire, les entreprises, in fine, en seront victimes, elles aussi.
Je voudrais m'essayer à la question très importante que vous posez. Et vous le posez dans des mots choisis, système capitaliste. Dès que vous dites système capitaliste, évidemment, on regarde système collectiviste, qui n'est pas capitaliste. C'est-à-dire que dès qu'on critique un système capitaliste, on arrive bien sûr à une définition d'un système non capitaliste. Je crois que c'était une question légitime dans les années 1970, 1980. Elle est beaucoup, beaucoup moins légitime aujourd'hui, et malheureusement, on la pose toujours. Parce que il y a des gens, beaucoup d'entre eux, et ça avait commencé au XVIIIe siècle, genre Adam Smith, qui parlait ni de capitalisme, ni de collectivisme, mais de société commerciale. Et dans une société commerciale, eh bien, il n'y a plus l'idéologie de tout le marché, ou il n'y a plus l'idéologie de tout l'État, mais qui est le système capitaliste traditionnel, le système collectiviste, mais il y a une espèce d'hybridation qui se fait entre des marchés qui peuvent être régulés par l'État, avec de l'État qui devient du marché aussi, où il y a une agora, où il y a une demande, une offre, etc. Et c'est plus intéressant, il me semble, de regarder les modèles hybrides, surtout que des pays actuellement, comme l'Inde, comme la Chine, ont certainement des modèles hybrides. C'est-à-dire ils utilisent l'État, le communisme, l'hypercapitalisme, tout ça en même temps, avec leurs couleurs locales. C'est absolument fascinant de voir ce qui se passe. Et peut-être à votre réponse, c'est de dire oui, il est possible d'avoir une éthique dans la société commerciale. C'est très difficile d'avoir une éthique dans les mœurs, l'habitus que vous décrivez, quoi. Adam Smith dira le problème fondamental dans nos sociétés commerciales, c'est que nous idéalisons les riches et les puissants. Et si on commençait à moins idéaliser les riches et les puissants, ça commencerait à aller mieux, parce que des riches et des puissants qui font des bêtises, on va les imiter, non pas parce que c'est bien, mais parce que ils sont riches et puissants, et on les idéalise. Et donc, ils touchent, là, les mœurs et l'habitus qu'Aristote avait mis de l'avant. Comment voyait Aristote, Bernard, comment Aristote voyait les riches et les puissants?
Il n'était pas hostile aux riches et aux puissants. Pas du tout hostile aux riches et aux puissants. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais à l'instant sur l'éthique de la société commerciale et la société capitaliste. Il faut bien voir que sans éthique, il n'y a pas de société capitaliste, il n'y a pas de société commerciale. Imaginez un monde dans lequel on ne pourrait faire confiance
à personne.
Un monde dans lequel vous entrez dans une librairie et vous n'allez pas donner votre argent au libraire parce que vous n'êtes pas sûr qu'il va vous donner le livre que vous voulez acheter.
Le respect de contrat.
Mais oui. S'il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire si on ne fait pas l'hypothèse que celui qui est en face de soi est vertueux, enfin, ou est honnête, il n'y a plus de transaction. Ou plutôt les coûts de transaction, pour parler comme les économistes, explosent. Et du coup, il n'y a plus de transaction. Donc, le système capitaliste est basé et ne fonctionne que parce que les acteurs ont confiance les uns dans les autres. Et justement, ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles cette confiance s'étiole, sociétés de corruption, par exemple, sont des sociétés qui ne connaissent pas le développement. Vous remarquez qu'il y a corrélation directe entre la corruption et le non-développement. Et c'est pas le non-développement qui crée la corruption, c'est la corruption qui interdit le développement. Dans les sociétés totalement corrompues, j'ai vécu aux Philippines par exemple, qui est une société très corrompue, il est bien clair qu'il n'y avait pas de banquier. On ne pouvait pas acheter quoi que ce soit avec un chèque, parce que personne n'acceptait de chèque. Parce qu'on savait bien que prendre un chèque, c'était prendre un risque. Et à l'époque, il n'y avait pas de carte de crédit. Donc c'était horriblement compliqué, on ne pouvait pas négocier, on ne pouvait quasiment rien faire. Et ça conduisait naturellement à la corruption.
Nous avons encore le temps, messieurs, dames, pour une ou deux questions de vous. Profitez-en. Est-ce que quelqu'un d'autre, vous voulez y aller, madame? Monsieur, vous pouvez laisser la place à madame qui... Et s'il y a plus de temps, vous pouvez avoir une deuxième question.
Allez-y, madame.
Merci. Merci beaucoup, monsieur.
Oui, ce qui me fait vous poser une question, c'est parce que c'est beaucoup votre commentaire disant que sur le livre d'Aristote, il est compréhensible. Effectivement, ça c'est très rare de trouver ça. Ça donne en partant le goût de le lire.
Oui.
Mais l'autre chose en même temps qui me donne comme le goût de le lire, c'est, Monsieur Bernard, votre commentaire en disant que dans Aristote, on trouve énormément de sujets qu'il a traités, entre autres sur le vivre ensemble, et qu'aujourd'hui, ça pourrait nous être utile. Là, il se mélange un peu d'ombre dans mon esprit par rapport à cela. C'est quand je regarde, je me pose ces questions-là, mais en faisant jouer l'élément de liberté.
Alors Bernard, le vivre ensemble, la liberté, comment tout ça s'est argumenté?
Mais vous êtes sûr que vous avez bien compris ma question, parce que c'est pas comme évident non plus. Hein.
Non,
la question de la liberté, ce n'est pas évident. Mais allez-y.
Non, alors la question de la liberté n'est pas évidente, et du reste, Aristote ne parle pas beaucoup de liberté, qui est un concept, plus moderne. Il n'en parle pas beaucoup parce qu'on est dans des sociétés dans lesquelles, paradoxalement, la question ne se pose pas. Hein. Ne se pose pas parce que ce sont des sociétés quand même...
C'est un concept assez moderne, le concept de liberté.
Est un concept moderne, oui.
Locke commençait à l'évoquer, c'est pas...
Moi, je me posais comme question de lire le livre, par exemple, sur la question du vivre ensemble, avec tout ce qui se passe en plus présentement. La question du vivre ensemble est de plus en plus évidente et les réponses sont loin d'être trouvées non plus. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de la question de la solidarité qui probablement n'existait pas. Mais moi, pourquoi je pose la question, c'est comment Aristote peut-il nous éclairer aujourd'hui pour vivre ensemble quand même la question de la liberté n'existait pas et que pour lui, ça aussi vous le savez, tout le monde le sait, Aristote il est connu aussi pour ça, les hommes existaient, les femmes étaient zéro.
Hein. Ah, c'est pas tout à fait vrai.
Bon, alors je vous écoute.
Pas à cette époque-là.
Non, c'est pas tout à fait
vrai. Très heureuse de savoir.
Non, c'est pas tout à fait
vrai. C'était la montagne russe après dans l'histoire, là, mais pas.
C'est pas tout à fait vrai. Chez les Grecs, les femmes ont un rôle à jouer. Et tout à fait. Et il parle d'ailleurs très joliment du gouvernement de la famille et du rôle de la femme dans le gouvernement de la famille. Les femmes étaient plutôt dans la domesticité, dans l'intimité, plus que dans l'espace public, mais elles n'étaient pas du tout négligées.
Ni perçues comme étant à la merci. Je pense même que c'était pratiquement une relation d'égal à égal, mais avec des rôles différents.
Des rôles étaient différents, oui.
Assez bizarrement. Ce qu'on n'a pas vu dans d'autres...
Dans d'autres sociétés,
non.
Oui.
Mais si je peux me permettre, le concept de liberté dans la Grèce antique existait quand même assez pour les citoyens, et non pas les citoyennes. C'est-à-dire que les citoyens qui siégeaient, qui pouvaient discuter de l'avenir de la cité, étaient vus, étaient protégés dans leurs droits de liberté. Et même si on prend des gens du 18e et 19e siècle, après Locke, etc., mentionnés par Locke, on voit que John Stuart Mill, par exemple, va faire un superbe bouquin sur les femmes et sur la liberté, mais tout de suite après, il va faire en sorte, puisqu'il est député et il siège aux chambres des communes anglaises, il va faire en sorte que cette liberté n'est simplement donnée aux Anglais, à l'Empire britannique, certainement pas en Inde et certainement pas aux femmes. Et donc, il y a tout ce glissement. Qui parle de liberté? Est-ce que la liberté est un concept moderne, etc.? Regardez John Stuart Mill, il écrit « On Liberty », qui est un superbe livre, mais quand vous regardez par derrière, ni les femmes en Inde, où ni tout ce qui n'est pas anglais en profite. Alors, parle-t-il réellement de liberté ?
Et ce qui est assez intéressant, c'est que les premières réflexions qu'on a pu lire sur la liberté, entre autres lorsqu'on lit John Locke, l'objet de la liberté, l'objectif de la liberté, c'était de garantir les vertus ou de tester les vertus. C'est-à-dire que fallait être libre pour que lorsqu'on arrive au jugement dernier, on ait agi de façon volontaire et vertueuse. Donc, ne pouvait être vertueux que celui qui était libre. Et c'est un concept qui était très, très, très associé, non pas au fait de dire ben, « la liberté, c'est un droit », mais la liberté, c'est un concept qui permet de démontrer à la fin que j'ai eu une vie vertueuse parce qu'il n'y a personne qui m'a forcé à être charitable, il n'y a personne qui m'a forcé à. Et c'était très ancré dans la religion catholique, lorsqu'on disait chrétienne, pardon, lorsqu'on disait ben, « rendu au jugement dernier pour déterminer si vous avez mené une vie vertueuse, il faut que vous ayez été libre ». Si vous n'avez pas été libre, vous n'avez pas... Donc, Locke défend la liberté sur ce concept-là. C'est après que ça s'est développé en se disant « Mais la liberté, ce n'est pas juste une façon pour moi de démontrer que j'ai été vertueux, mais c'est aussi un droit de faire ou d'être propre maître de ma destinée. »
Oui, la liberté, d'ailleurs, est un concept qui a été beaucoup développé par les théologiens qui se ouais. posaient cette question toute bête et toute banale. Si Dieu sait tout, comment puis-je être libre ? C'est la question du libre-arbitre. Vous savez que Luther ouais. a écrit deux livres là-dessus, le très gros livre là-dessus, qui est une réponse à Thomas More. Et comment essayer de concilier notre liberté, notre libre-arbitre, et puis la prescience divine. Et là, il y a des bibliothèques entières chez les théologiens médiévaux, souvent passionnants d'ailleurs, et qu'on est en train de redécouvrir. Mais c'est très complexe, et c'est très... on est loin d'Aristote.
Oui.
Nous avons le temps pour une dernière question.
Vous avez terminé votre conférence sur les vertus, l'éventuelle vertu du manager, et je n'ai pas eu l'impression d'entendre les caractéristiques de cette vertu. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous avancer là-dessus. Et en fait, je pose la question au panel, hein, au complet.
Alors, dans le livre, je
acheter le livre.
Non, mais le docteur Gendron l'a feuilleté déjà. dans le livre, j'avance trois vertus en fait qui sont empruntées à Aristote et qui pourraient convenir aux gestionnaires. La première, c'est la prudence, dont Aristote nous dit que c'est la seule vertu propre aux gouvernants. Car il semble que les autres vertus sont nécessairement communes aux gouvernés et aux gouvernants. Alors, le concept de prudence chez Aristote a donné lieu à la publication de livres extrêmement épais. C'est très compliqué et c'est pas simplement la prudence au sens banal. La prudence, c'est celui qui délibère, qui chiffre et maîtrise les calculs économiques coûts-bénéfices. C'est celui qui est expérimenté et capable de prévoir, non pas l'avenir, mais les réactions de ses partenaires, adversaires et concurrents. C'est celui qui sait éviter les pièges de la myopie, du refus systématique de collaborer, comme de la bienveillance universelle. Donc c'est un concept relativement sophistiqué que celui de prudence. Et l'autre notion très importante, c'est la notion de juste milieu,
oui.
Consiste au fond à... je vais vous donner un exemple que je prends là dans le livre... je prends l'exemple du harcèlement moral. Je ne sais pas si vous avez eu ici ce type de problématique.
Pas autant qu'à chez France Télécom. Là, mais...
Pas autant que chez France Télécom. Bon. Lorsque vous avez un collaborateur qui est accusé de harcèlement moral, que faire ? Alors je pose la question, puisque j'étais amené comme consultant à intervenir à plusieurs reprises sur ces cas-là, que faire ? Quelle est la bonne décision ? Que faire ? Faut-il... l'éliminer. C'est peut-être un petit peu sévère quand on n'est pas certain de la nature du harcèlement. Parce que tout dans ces questions-là, en général, on ne sait pas vraiment. Hein. On ne prend pas une hache pour taper sur les gens. Je veux dire, c'est psychologique, donc c'est très difficile à dire. Faut-il l'ignorer ? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui souffre. Et donc, la difficulté est de trouver la juste mesure entre la sanction qui va effectivement satisfaire la victime... sans cependant punir trop sévèrement celui que l'on désigne comme le coupable, sachant qu'il y a une marge d'incertitude et qu'on n'est certainement pas un juge. C'est là, si vous voulez, qu'est le juste milieu. C'est dans les cas concrets extrêmement difficile de résoudre la question. Et c'est cependant là que l'on voit la différence au quotidien entre les bons gestionnaires ou les bons managers et les mauvais managers. Le bon manager est celui qui naturellement, spontanément, presque sans y penser, trouve la bonne position. Un peu, vous savez, comme un comédien qui est sur une scène, qui attrape la lumière. Il y en a qui passent à côté de la lumière, à côté du halo lumineux, et il y en a d'autres qui sont toujours dedans. Eh bien, le bon manager, c'est un peu celui qui est toujours au bon moment, qui sait trouver le juste milieu, la bonne situation. C'est quelque chose qui, c'est en sens que ce que nous dit Aristote est intéressant, c'est quelque chose qui s'apprend, non pas à l'école, mais qui s'apprend d'expérience, en étant en permanence dans l'action et aussi dans la réflexion sur ce que l'on fait. Là, j'ai bien fait, là, j'ai mal fait, pourquoi ai-je bien fait, pourquoi ai-je mal fait? Et c'est là, si vous voulez, la manière dont on peut acquérir cela. Ce n'est certainement pas quelque chose qui relève de la description dans un livre de management.
Mmh. Michel, en deux, trois phrases, qu'est-ce que vous voulez dire en concluant?
Ouais, ce que je veux dire en conclusion, d'abord, c'est d'acheter le livre. Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires que tu as apportés. C'est vrai que lire Aristote, c'est aride. Donc, si vous voulez vous lancer dans la lecture d'Aristote, je vous dirais bon, peut-être aller chercher quelqu'un qui l'interprète ou aller lire le livre de Bernard. Ça va, ça, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à lire. C'est un truc qui est difficile. Cette réflexion-là sur l'entreprise est très intéressante. Dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, on a tendance, et ça revient un peu au commentaire de monsieur sur le travail, on a tendance à prendre des choses pour acquises. On a tendance à d'avoir des dogmes sur voici comment que les choses doivent être faites. Mais je pense que des fois, de revenir à certains auteurs et de prendre ces auteurs-là comme étant une loupe ou une paire de lunettes pour aborder une réalité d'aujourd'hui nous permet de donner, d'avoir le recul qui est nécessaire et de pas prendre les choses pour acquises. Le système capitaliste, il y a ses lacunes, il y a ses succès. On peut le regarder. Comment les décisions se prennent dans l'organisation? On a comme tendance de prendre pour acquises que c'est les actionnaires qui doivent le faire, ça veut pas dire, mais on questionne pas ça, c'est des choses qu'on prend comme étant automatiques, mais je pense que de temps en temps, d'avoir ce certain recul-là pour questionner ces choses-là, ben, ça va faire comme Aristote nous dit, ça va nous permettre de délibérer et d'atteindre la sagesse et d'être heureux à la fin de tout ça.
Bernard, en deux, trois phrases, comment vous voulez conclure?
Bien, je dirais, si vous voulez, je dirais un mot de cette expérience. C'était un petit peu à l'origine un jeu intellectuel que d'écrire ce livre, d'essayer de comprendre, et comme vient de le dire Michel, j'ai été extrêmement surpris d'abord de la richesse de ce que j'ai trouvé, enfin pas de la richesse, je savais que c'était très riche Aristote, mais de la pertinence pour nos problématiques contemporaines d'outils intellectuels que l'on trouve chez Aristote. Et c'est d'autant plus intéressant que très souvent ces outils sont présentés dans un milieu tellement éloigné du nôtre qu'on les voit presque nus, presque naturel, et ça nous les rend plus faciles à manier que des concepts que l'on va développer à l'intérieur de nos systèmes où il y a une gangue épaisse de, c'est beaucoup plus compliqué. Là, les concepts sont, vous le verrez si vous lisez le livre, bien souvent ils donnent des exemples extrêmement élémentaires du médecin et du patient, et tout d'un coup tout s'éclaire. Et pour peu qu'on ait l'expérience du monde du travail ou l'entreprise, on se dit, mais oui, mais c'est exactement ça.
Et moi, pour conclure, en une phrase, je trouve que une entreprise comme cela de regarder un auteur qui vient de l'histoire est l'une des manières les plus radicales qu'on peut avoir pour comprendre notre société actuelle. Pour comprendre le présent, il faut un contexte. Et cette façon historique de voir les choses, de regarder quelqu'un qui vient d'une culture différente, à un temps différent, est très salutaire pour nous parce qu'on revoit notre monde actuel. Et peut-être de regarder bien en face notre monde actuel est une tâche très importante que nous devons commencer aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Je remercie à Isabelle Boulanger de nous avoir accueillis ici à Oliveri. Merci à Bernard Girard de nous vous avoir visité de la France. Bon sabbatique, oui, ici, vous allez passer un mois, là. C'est des vacances, là.
Pas du tout.
Je viens travailler. C'était, alors, bon, moins 20 degrés ce soir.
Je viens travailler.
Merci à Michel Seguin de t'être prêté au jeu. Je me suis prêté au jeu. Cette agora peut-être aristotélienne est terminée. Monsieur, vous voulez faire un commentaire?
Si vous permettez 10 secondes d'une conclusion de public, là.
Ah oui.
Vous l'avez justement amorcé. Ma question, ça aurait été par rapport à ce qui se passe au Caire depuis 2 jours. Est-ce que le gigantisme des villes, puis on va vers des villes de plus en plus populeuses, on prévoit peut-être 100 millions à Mexico là, d'ici une cinquantaine d'années, est-ce que ça finit par interdire le recul et la réflexion sur le travail?
Si vous lisez le livre, il y a tout un passage dans lequel je raconte comment Aristote s'interroge sur la taille des cités. Et il donne l'exemple d'une cité, je ne me souviens plus, je crois que c'est Babylone, si grande que l'ennemi était entré à un bout de la ville et l'autre bout de la ville ne savait pas que la ville avait été attaquée. Et il dit, ça ne colle pas. Bon, alors évidemment, vous imaginez à Mexico ce que ça pourrait être.
Messieurs, dames, bonne Saint-Valentin.